3 septembre. Oscar a omis, je pense, quelque chose dans le post-scriptum qu'il a ajouté de sa main. Il m'a demandé si j'avais encore la lettre, et sur ma réponse négative, il montra un certain mécontentement qui, cependant, n'a pas duré longtemps. Il s'est écrié « Qu'importe, après tout, j'en serai quitte pour écrire de nouveau. » « À propos de lettres, ajouta-t-il, en entendez-vous une de Madame Pratolungo ?»« Vous voyez que cette fois, c'était lui qui m'en parlait. » Je lui répondis que c'était peu probable après ce qui s'était passé entre elle et moi. Je saisis cette occasion de lui faire une question au sujet de Madame Pratolungo. Il me pria pour la seconde fois de quitter ce désagréable sujet, et cependant, il se mit précisément à faire ce qu'il me défendait en m'interrogeant à son tour sur Madame Pratolungo. « Croyez-vous, dit-il, qu'elle corresponde avec votre père ou votre belle-mère, à présent qu'elle a quitté l'Angleterre ?»« Je doute qu'elle écrive à mon père, lui répondis-je, mais il se pourrait qu'elle écrivît à Madame Finch. » Il réfléchit un instant, puis il changea de conversation pour parler de notre séjour à Ramsgate. « Combien de temps comptez-vous rester ici ?» me demanda-t-il. « Cela dépendra d'Herr Grosse. Je lui en parlerai lorsqu'il viendra. » Il se retourna et me prit la main, cette main insensible qui reste froide quand il la touche. « Soyez ma femme, Lucille, me dit-il, et je resterai à Ramsgate pour vous faire plaisir. » Toute heureuse que j'étais en entendant ces paroles, il me sembla qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la manière dont il les prononça, et l'expression de sa figure me fit tressaillir. Je ne lui répondis pas immédiatement, et il continua. « Pourquoi ne pas nous marier tout de suite ? » dit-il. « Nous sommes tous deux majeurs, et nous sommes maîtres de faire ce qui nous plaît. » Note. Veuillez lire comme suit. Pourquoi le mariage n'aurait-il pas lieu avant que Madame Pratolungo n'apprenne ma présence à Ramsgate. De cette façon, vous verrez quel était le motif de Nugent. La situation devenait de plus en plus périlleuse et il ne lui restait plus que la ressource d'engager Lucille à faire célébrer le mariage avant que je ne fusse averti et avant que le docteur Grosse ne jugeât Lucille assez bien portante pour quitter Ramsgate. P. Dans tout ceci, vous comptez sans mon père, lui dis-je. « N'était-ce pas chose convenue qu'il devait nous marier lui-même à Dimchurch ?» Oscar eut un sourire, mais non pas le sourire que je trouvais si charmant dans mon imagination lorsque j'étais aveugle. « Alors, s'il faut que ce soit votre père qui nous marie, nous courons le risque d'attendre longtemps. »« Que voulez-vous dire ? » ?»« Je vous expliquerai cela quand nous reparlerons de Madame Pratolungo. » Croyez-vous actuellement que M. Finch réponde à votre lettre ? Je l'espère. Croyez-vous qu'il répondra au post-scriptum que j'y ai ajouté ? J'en suis persuadé. Il eut le même sourire désagréable et, cessant assez brusquement la conversation, il alla jouer au piquet avec ma tante. Tout ceci s'est passé hier au soir. Je suis allée me coucher, fort mécontente de moi-même, ou d'Oscar, ou bien de tous les deux. Je ne saurais préciser. Nous sommes allés nous promener aujourd'hui sur les rochers. Quel bonheur de respirer l'air frais de la mer et de jouir du spectacle qui s'offrait à nos regards. Oscar n'était pas moins heureux que moi. Pendant la première partie de notre promenade, il fut charmant et je sentis que je l'aimais plus que jamais. Mais en revenant, il survint un petit incident qui me le montra sous un jour moins favorable et qui me rendit toute triste. Je lui proposai de revenir en suivant le rivage. Ramsgate est encore rempli de baigneurs et l'animation qui règne sur la plage dans l'après-midi présente pour moi, qui ai été si longtemps privé de la vue, un attrait plus puissant que pour les autres. Oscar a une sorte d'horreur instinctive de la foule et fuit tout contact avec les gens qui ne sont pas ses égaux par l'éducation et par les manières. Il fut surpris de mon désir de me mêler à ce qu'il appelle la populace de la plage. Il consentit cependant à m'accompagner si j'y tenais beaucoup. Et comme j'insistais, nous descendîmes sur la plage. Nous nous assîmes sur les chaises qu'on loue sur la promenade et nous nous mîmes à regarder la foule qui était fort muante. Des singes savants, des joueurs d'orgue, De jeunes saltimbanques marchant sur des échasses, un escamoteur, une troupe de négro minstrels, caricature de la race noire, s'évertuaient à amuser la foule. Le mélange des couleurs, l'animation joyeuse de la foule, la mer bleue resplendissant des rayons d'un soleil ardent, tout me sembla délicieux. Je pensais que deux yeux ne suffisaient pas pour admirer tout cela. Une bonne vieille dame assise à mes côtés entama la conversation et m'offrit gracieusement des biscuits et du xérès qu'elle portait dans un petit sac. À mon grand désappointement, Oscar se montra fort maussade. Il prétendit que la bonne vieille dame avait des manières vulgaires et que la foule qui se pressait autour de nous n'était qu'un troupeau de snobs. Comme il murmurait encore sur le désagrément du contact avec les basses classes, il aperçut quelque objet qui le fit se lever et se tenir devant moi de manière à me le cacher. Comme je lui demandai la raison de ce mouvement, une dame, vêtue d'une robe de nuance particulière et que j'avais déjà remarquée, passa devant moi et je tirai Oscar de côté afin de la regarder. Elle était accompagnée d'un homme de haute taille et de deux beaux enfants. Je vis que la figure du compagnon de cette dame présentait cette même teinte bleuâtre qui m'avait tant effrayée lorsque j'avais aperçu le visage du frère d'Oscar après l'opération. En ce moment, j'éprouvais le même sentiment de frayeur, mais plutôt parce que j'observais cette singulière nuance reproduite sur la figure d'un inconnu que par l'effet de la couleur elle-même. Je ne laissais pas cependant d'admirer la toilette de la dame et la beauté de ses enfants. Tandis que je les regardais, Oscar répondit à ma question d'un ton de reproche qui me sembla immérité. « J'ai voulu vous épargner la vue de cet homme, et si vous avez eu peur, ne vous en prenez qu'à vous-même. » « Je n'ai pas eu peur le moins du monde, » lui répondis-je vivement. Oscar me regarda attentivement et s'assit sans ajouter un seul mot. La bonne vieille dame, qui avait vu et entendu tout ce qui s'était passé, se mit à parler du monsieur à la figure bleue, ainsi que de la dame et des enfants qui l'accompagnaient. C'était un officier en retraite qui avait servi aux Indes. « Il est malheureux de voir un aussi bel homme défiguré de cette manière, » me dit-elle. « Mais qu'importe, il est marié et il a deux beaux enfants pour le consoler. Je connais la propriétaire de l'appartement qu'ils occupent et elle dit qu'on ne pourrait trouver dans toute l'Angleterre de ménage aussi heureux. Après tout, son malheur n'est pas si grand quand on y réfléchit. N'êtes-vous pas de mon avis, mademoiselle ?» Je répondis à la vieille dame que je partageais son opinion. Notre conversation semblait irriter Oscar. Je n'y comprenais rien. Il se leva de nouveau avec impatience et regarda sa montre. « Votre tante va se demander ce que nous sommes devenus, » dit-il. « Vous devez avoir assez de cette foule. » Tout au contraire, j'aurais voulu rester et je ne me sentais nullement fatigué de regarder les promeneurs. Mais, voyant que je contrarierais Oscar en restant plus longtemps, je souhaitai le bonjour à la bonne vieille dame et je quittai la plage assez à contre-cœur. Il ne dit mot, tandis que nous traversions la foule. Puis il reparla de l'officier et du souvenir qu'il avait éveillé en moi par la ressemblance de son teint avec celui de Nugent. « Comment se fait-il que vous n'ayez montré aucune frayeur à la vue de cet homme, comme vous l'avez fait en apercevant mon frère ?»« C'est à cause de l'idée que je me faisais de votre frère, étant aveugle. Quelque temps après l'avoir vu, je m'y étais habitué. » « Cela vous plaît à dire, » répondit-il d'un air de doute. Il y avait quelque chose de fort irritant de se voir, pour ainsi dire, accusé de mensonge. De notre côté, il est vrai qu'il n'était pas très bien de ma part de faire allusion à son frère après ce qu'il m'avait dit de l'infatuation de celui-ci. Je n'aurais pas dû le faire, et cependant, je ne pus m'empêcher de revenir sur ce sujet. « Je dis ce que je pense, » lui répondis-je. « Avant de savoir ce que vous m'avez dit touchant votre frère, j'allais vous proposer, dans votre intérêt et dans le sien, de le prendre avec nous après notre mariage. » Oscar s'arrêta subitement. Il regarda son bras qu'il m'avait donné pour me guider à travers la foule. « Si vous parlez ainsi, c'est que vous êtes fâché contre moi. » Je niais qu'il en fût ainsi et je lui déclarai de nouveau que je ne lui avais dit que la stricte vérité. « Vous ne me soutiendrez pas que vous auriez pu vivre avec la figure de mon frère continuellement devant vos yeux ? Si, vraiment, s'il avait consenti à me regarder comme sa sœur. Oscar me montra à quelques pas de là la maison où je demeurais avec ma tante. « Vous voilà arrivé, » dit-il d'une voix singulière et étouffée et les yeux baissés. « Je m'en vais continuer ma promenade, nous nous reverrons à dîner. » Il me quitta sans lever les yeux et sans dire un mot de plus. Était-il jaloux de son frère ? Il y aurait eu dans une pareille jalousie quelque chose de si peu naturel et de si dégradant que je me sentis honteuse de l'en avoir soupçonné un seul instant. Cependant, que pouvait signifier une conduite si singulière ? Note. C'est à moi à répondre à cette question. Pour être juste envers ce malheureux, je dois dire que sa conduite décelait tout simplement le remords. La seule excuse qu'il put se faire vis-à-vis de sa propre conscience, c'était que le malheur de son frère était un obstacle fatal à son mariage. Mais Lucille venait de déclarer qu'elle pouvait, sans horreur, s'habituer à voir Oscar. La torture que lui infligeait sa conscience en faisant cette découverte l'avait forcé à quitter Lucille. Il se serait trahi s'il lui avait adressé la parole à un pareil moment, et je suis parfaitement certaine à l'heure qu'il est de ce que j'avance. P. La nuit est venue. Je suis dans ma chambre, trop agitée pour pouvoir me livrer au sommeil. J'aime mieux continuer à rapporter les événements intimes de cette journée. Oscar est venu un peu avant l'heure du dîner, pâle, égaré, et ne semblant pas avoir conscience de ce qu'il disait. Il n'y a pas eu d'explication entre nous. Il m'a demandé pardon de sa brusquerie et de la mauvaise humeur qu'il avait montrée lors de notre promenade. J'acceptai volontiers ses excuses et je fis de mon mieux pour cacher l'inquiétude que me causait son air préoccupé et distrait. Pendant qu'il me parlait, ses pensées étaient ailleurs et il ressemblait encore moins que jamais à l'idée que je m'étais faite de lui quand j'étais aveugle. Sa voix était bien la même, mais il me parlait d'un ton jusque-là inconnu pour moi. Je sais qu'il avait jadis l'air calme et discret, mais je ne me rappelle pas l'avoir jamais vu aussi désespéré et aussi abattu qu'aujourd'hui. Inutile de lui en demander la raison. Je ne pouvais autrefois le voir de mes propres yeux, et les moyens par lesquels je le jugerais autrement, et ceux grâce auxquels je le juge maintenant, diffèrent tant qu'il est inutile de les comparer. Combien Madame Pratolungo me manque ! Comme je me sentirais soulagée si je pouvais tout lui confier et savoir ce qu'elle pense de tout ceci. J'ai cependant une occasion de dissiper mes doutes en attendant jusqu'à demain. Oscar semble résolu enfin à me donner les explications qu'il m'a refusées jusqu'ici. Il m'a demandé un rendez-vous pour le matin, ce qui excite au plus haut point ma curiosité. Il y a quelque chose là-dessous qui concerne mes intérêts et peut-être aussi les siens. Voilà comment la chose est arrivée. En revenant à la maison, lorsqu'Oscar m'a eu quitté, je trouvai une lettre dans laquelle mon bon vieux docteur m'annonçait sa visite prochaine et il ajoutait un post-scriptum pour me dire qu'il arriverait vers l'heure du second déjeuner. Je connaissais si bien mon brave Allemand que j'en conclus qu'il fallait demander à ma tante de faire de son mieux sous le rapport culinaire afin de recevoir dignement le docteur. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Madame Pratolungo et à la fameuse mayonnaise. Hélas, ces jours heureux reviendront-ils jamais ? Nous étions à table lorsque j'annonçai cette nouvelle en ajoutant d'un air significatif que Herr Grosse viendrait déjeuner. Ma tante eut un léger tressaillement et il me sembla, contre mon attente, qu'elle s'intéressait peu à la question du menu pour ne s'occuper que de l'opinion du médecin par rapport à ma santé. « Je suis très inquiète de savoir ce que dira Herr Grosse à votre sujet, ma chère enfant, » me dit ma bonne tante. « J'insisterai pour qu'il me fasse sur votre état un rapport plus détaillé que le dernier. Vos yeux me semblent, ma chère enfant, complètement guéris à présent. Est-ce que, par hasard, vous désireriez que je sois guérie afin de pouvoir quitter Ramsgate ? Est-ce que vous en êtes déjà fatiguée ? » demandai-je à ma tante. Tout âgée qu'elle était, le tempérament bouillant de Mademoiselle Batchford se révéla dans le regard qui jaillit de ses yeux. « Je suis fatiguée, me répondit-elle, de garder une lettre qui vous est adressée. »«
Quelle lettre ?»«
Une lettre que je ne dois vous remettre que lorsque Herr Grosse aura déclaré que vous êtes complètement guérie. » Oscar, qui jusque-là n'avait pas fait la moindre attention à notre conversation, s'arrêta subitement, la fourchette en l'air, pâlit et regarda ma tante fixement.
« Qu'est-ce que cette lettre ? Répétai-je. « Qui vous l'a donnée et pourquoi ne dois-je pas la voir avant d'être complètement guérie ?»
Pour toute réponse, Mademoiselle Batchford secoua la tête.
« Je hais les secrets et toutes ces façons mystérieuses d'agir, » dit-elle avec impatience. « J'ai hâte d'en finir avec ce secret, voilà tout, et comme je n'en ai que trop dit, je me tairai. » Mes prières furent inutiles. Ma tante s'était laissée entraîner par sa vivacité à commettre une imprudence. Elle s'en était aperçue à temps pour ne pas compliquer davantage les choses. J'eus beau faire et beau dire, elle ne voulut plus me parler de cette mystérieuse lettre. Elle répondit à toutes mes questions en me priant d'attendre l'arrivée d'Herr Grosse. Ce petit incident produisit sur Oscar un effet qui vint exciter encore la curiosité que ma tante avait éveillée en moi. Il m'écoutait avec une attention extraordinaire, tandis que je suppliais ma tante de satisfaire ma curiosité. Quand il vit que je ne pouvais obtenir de réponse, il repoussa son assiette et cessa de manger. Mais en revanche, quoiqu'il fût d'habitude fort modéré sur la boisson, il but une forte quantité de vin pendant et après le repas. Le soir, il joua tout de travers avec ma tante, qui, tout irritée, finit par renoncer à la partie. Puis il s'assit dans un coin, écoutant en apparence le morceau que j'exécutais au piano, mais en réalité plongé dans un abîme de réflexion. Au moment de me quitter, il me glissa d'un air inquiet ses mots à l'oreille en me pressant la main. « Il faut absolument que je vous voie seule demain avant l'arrivée de Herr Grosse. Pouvez-vous me ménager une entrevue ?»« Oui. »
« À quelle heure ?»«
À 11 heures, au bas de l'escalier qui conduit à la plage. »
Il me quitta sur ces paroles, mais une idée fixe me poursuivait. Oscar connaît-il l'auteur de la lettre mystérieuse ?
Oui, j'en suis persuadée. Nous verrons demain si je me suis trompée.
Le temps me semblait bien long jusque-là.
4 septembre.
Je compte ce jour comme le plus triste de ma vie. Oscar m'a montré Madame Pratolungo telle qu'elle est. Il me l'a dépeinte si nettement que je n'ai pu rien répondre. J'avais placé ma confiance dans une femme pleine de duplicité. Je l'avais aimée, cette créature dépourvue de tout honneur et de toute reconnaissance. Et dire que j'ai pensé... Mais non, le dégoût me saisit et j'aime mieux ne pas en parler.
Note. Vous êtes-vous jamais trouvé, comme moi, dans la nécessité de transcrire une opinion peu flatteuse vous concernant ? Si vous êtes blasé, je vous recommande cette nouvelle sensation. Vous verrez quelle force de caractère il vous faudra pour résister au désir d'y ajouter une ligne ou deux de votre cru. P.
Oscar se trouva au rendez-vous. Il me conduisit jusqu'à la jetée de l'ouest. À l'exception de quelques marins qui ne firent point grande attention à nous, il n'y avait personne. C'était une des plus belles journées de la saison pour nous reposer aux rayons d'un magnifique soleil et respirer la brise embaumée de la mer. Il y avait quelque chose d'affreux et contre nature à nous entretenir pendant des heures entières de pièges, de mensonges, d'ingratitude, de supercherie, de méchanceté. Je fis en sorte que ma première question le poussât à aborder le sujet sans perdre de temps à me préparer à ses révélations.
Me suis-je trompé en supposant que vous saviez quelque chose de la lettre dont ma tante a parlé hier à dîner ?
Oui, je soupçonne seulement qu'elle vienne d'une personne qui nous veut du mal à vous et à moi.
Madame Pratolungo ?
Précisément, Madame Pratolungo.
Je ne fus pas de son avis sur ce point. Madame Pratolungo avait eu une discussion politique avec ma tante. Il était donc peu probable que mon ancienne amie lui eût écrit une lettre, et surtout une lettre confidentielle. Je demandai à Oscar s'il avait quelque idée de la teneur de cette lettre et pourquoi elle ne devait m'être remise que lorsque Herr Grosse aurait déclaré que j'étais complètement guérie. Je ne saurais deviner son contenu, mais je puis savoir dans quel but elle a été écrite. »
Et ce but ?
Ce but est celui qu'elle a toujours eu en vue, mettre tous les obstacles possibles à notre mariage.
Quel intérêt aurait-elle à agir ainsi ?
Celui de mon frère.
Je ne puis l'en croire capable.
Nous nous promenions. À ces paroles, il s'arrêta et me regarda fixement.
Vous l'avez cru, cependant, lorsque j'ai répondu à votre lettre.
Je reconnus en effet qu'après sa lettre, j'avais partagé son opinion à ce sujet tant qu'elle était restée auprès de moi.
Sa présence, lui dis-je, augmentait ma colère et mon aversion d'une façon inexplicable. À présent que j'ai eu le temps de réfléchir, son absence même plaide en sa faveur, ébranle ma conviction et me force à me demander avec anxiété si j'ai été juste envers elle. Je ne puis vous donner une meilleure explication du sentiment que j'éprouve, mais il n'en existe pas moins, quoique je ne puisse me l'expliquer.
Il m'examina avec une attention croissante.
Cette bonne opinion doit être bien enracinée en vous. Qu'a-t-elle pu faire pour la mériter ?
Si j'avais énuméré les souvenirs qui me la rappelaient, j'aurais fini par fondre en larmes. Et cependant, je devais prendre sa défense autant que possible. Je surmontai la difficulté en disant à Oscar
« Voici ce qu'elle a fait quand j'ai reçu votre lettre. »
Heureusement pour moi, elle était indisposée ce matin-là et elle a déjeuné au lit. J'ai eu tout le temps de retrouver mon calme et d'avertir Zila qui m'avait lu votre lettre avant de vous voir. Je m'étais sentie blessée la veille du motif qu'elle donnait de votre départ. Je pensais qu'elle ne me témoignait pas la confiance que j'aurais montrée en semblables circonstances. Me rappelant votre recommandation, je lui fis des excuses et lui dis tout ce qu'elle était en droit d'attendre de moi. Je me sentais si agitée, si malheureuse que je serais volontiers tombée dans l'exagération. Enfin, je lui donnai lieu de soupçonner qu'il se passait quelque chose de fâcheux, puisque non seulement elle me demanda s'il n'était pas arrivé quelque chose d'extraordinaire, mais elle alla jusqu'à me déclarer qu'elle croyait s'apercevoir d'un changement dans ma manière d'être auprès d'elle. Je l'arrêtai en lui disant que je ne la comprenais pas. Elle dut s'apercevoir que je ne disais pas la vérité et que je lui cachais quelque chose. Et cependant, elle n'ajouta pas un mot. Un sentiment de fierté, que je vis aussi clairement que je vous vois, se peignit sur son visage en même temps qu'elle avait l'air d'être blessée et peinée. Son expression à ce moment est encore présente à mes mémoires. Je me suis demandé plus tard si une femme aussi fausse et se sentant coupable aurait pu se conduire ainsi. Elle eut, au contraire, lutté de ruse avec moi et m'eut amené insidieusement à lui révéler la découverte que j'avais pu faire. Oui, Oscar, quoi que je fasse, ce silence plein de délicatesse, ce regard de fierté blessée, intercède en sa faveur quand je pense à elle. Je ne puis croire plus longtemps qu'elle puisse être l'abominable créature que vous m'avez dépeinte. Je sais que vous êtes incapable de me tromper et que vous avez confiance en mes paroles. Êtes-vous bien sûr de ne pas avoir commis une erreur cruelle à son égard ? Il s'arrêta sans me répondre et me fit signe de m'asseoir à côté de lui sur le parapet de la jetée. Je lui obéis, mais au lieu de me regarder, il jeta les yeux sur la mer. Je n'y comprenais rien et sa conduite faisait naître en moi un sentiment d'inquiétude, de frayeur même.
« Vous ai-je offensé ? » lui dis-je.
Il tourna les yeux vers moi aussi soudainement qu'il les avait tournés vers la mer. Il avait un air égaré et il était fort pâle.
« Vous êtes une bonne et généreuse fille, me dit-il d'une voix rapide mais entrecoupée. Parlons d'autre chose. »
« Non pas, j'ai trop besoin de connaître la vérité pour m'intéresser à autre chose. »
Il rougit de nouveau et poussa un soupir comme un homme qui fait un grand effort.
« Vous le voulez ? » dit-il.
« Oui, je le veux. »
Il se leva de nouveau. Plus il semblait prêt à me révéler ce qu'il m'avait caché jusque-là, plus il lui semblait difficile de commencer.
« Vous plairait-il de reprendre notre promenade ? » me demanda-t-il.
Je me levai sans répondre et je pris son bras. Nous allâmes ainsi à pas lents jusqu'au banc de la jetée, où il s'arrêta en regardant l'immensité de la mer azurée, au lieu de se tourner vers moi, et prononça ces paroles qui semblaient lui coûter tant. Sans vous forcer à conclure dans mon sens, je vais vous prouver, à l'aide de ses actions, que cette femme est coupable. » Je l'interrompis pour lui faire une question. « Dites-moi tout d'abord ce qui vous l'a fait soupçonner à ce point. » « Les renseignements que vous m'avez donnés vous-même sur elle au sable. Veuillez vous reporter par la pensée à l'époque dont j'ai parlé dans ma lettre, alors qu'elle s'est trahie devant vous dans le jardin du presbytère. Ne vous a-t-elle pas dit que vous auriez aimé Nugent si vous l'aviez rencontré avant de me connaître ?»« C'est parfaitement vrai. Elle a dit cela, influencée par la mauvaise humeur que nous partagions tous. » »« Eh bien, rappelez-vous qu'elle vous a suivi au sable. » « Était-elle toujours fâchée en vous faisant ses excuses ?»« Nullement. S'est-elle interposée lorsque Nugent, abusant de votre cécité, vous a induite en erreur en imitant ma voix ?»« Non, certes. Était-elle toujours en colère ?» Je voulais encore la défendre et je répondis à Oscar qu'elle pouvait bien être de mauvaise humeur à ce moment à cause de la froideur avec laquelle j'avais repoussé des excuses qu'elle me faisait de la manière la plus affable. Mes paroles ne produisirent aucun effet sur Oscar. Il résuma froidement tout ce qu'il avait dit. Elle a fait des comparaisons malveillantes entre Nugent et moi. Elle ne l'a pas empêché de vous tromper en imitant ma voix. Eh bien, sa conduite dans ces deux circonstances s'explique par son ressentiment. Admettons cela en conservant chacun notre opinion, mais avant d'aller plus loin, tâchons de nous entendre sur un fait irrécusable. Lequel de nous deux a-t-elle toujours préféré ? Il n'y avait aucun doute à cet égard. Je dus avouer que Nugent était son favori, et de plus, je me souviens de l'avoir accusé d'injustice vis-à-vis d'Oscar. Note. Revoir le passage où je dis « Vous entendrez parler dans la suite de cette accusation. P. » Oscar continua. « Prenez ce fait en considération et arrivons à l'époque où, réunis dans votre boudoir, nous discutions au sujet de l'opération qui devait vous rendre la vue. On avait, je m'en souviens, posé la question de savoir si le mariage devait précéder ou suivre cette opération ou bien s'il ne devait avoir lieu qu'après votre guérison complète. Quelle a été l'opinion de Madame Pratolung à ce sujet ? Elle a montré son hostilité en conseillant de remettre le mariage. Je persistais à la défendre. Elle l'a fait, dis-je, par sympathie pour moi. Oscar me surprit encore en consentant à se placer à mon point de vue et en ne me contredisant pas. Eh bien, nous dirons donc que c'est par pure sympathie pour vous, continua-t-il. Mais, quels que soient ses motifs, le résultat final a été le même. Notre mariage a été remis à une époque indéterminée et Madame Pratolung a approuvé ce délai. Et votre frère, ajoutai-je, a été d'un avis contraire et a essayé de me faire consentir à un mariage immédiat. Comment expliquez-vous cette contradiction ? Il m'interrompit. Ne parlez pas de mon frère dans tout ceci, dit-il. Il était encore capable à ce moment de montrer des sentiments honorables et d'accomplir son devoir en se sacrifiant pour moi. Bornons-nous à parler des faits et gestes de Madame Pratolungo. Souvenez-vous que, quelques instants après la fin de ce débat de famille, mon frère a été le premier à s'en aller et que vous m'avez laissé seul avec elle. Je m'en souviens parfaitement. Vous m'avez alors fait éprouver un désappointement amer en n'appréciant pas le vif désir que j'avais de vous voir recouvrer la vue. Vous avez élevé toutes sortes d'objections. Je me rappelle vous en avoir parlé avec une certaine amertume en vous blâmant de n'avoir pas, comme moi, foi dans l'avenir. Puis je vous ai quitté pour aller m'enfermer dans ma chambre. Je lui dis que je me rappelais aussi bien que lui tout ce qui s'était passé ce jour-là. Il m'écouta sans dire un mot et attendit que j'eusse fini pour me questionner. Madame Pratolung partageait votre opinion injuste sur mon compte, mais elle se servit de termes plus énergiques pour le déclarer. Elle s'est trahie devant vous dans le jardin, elle s'est trahie devant moi lorsque vous nous avez laissés ensemble dans le boudoir. Encore son tempérament irascible, me direz-vous. Je suis de votre avis, si elle avait pu se maîtriser, jamais elle ne m'eût parlé comme elle l'a fait. Je commençais à être un peu surprise. Comment se fait-il que vous ne m'en ayez encore rien dit ? Vous avez donc craint de me faire de la peine, dis-je à Oscar. Je craignais de perdre votre affection. » Je retirai mon bras que j'avais tenu sous le sien jusque-là. Ces paroles démontraient qu'il m'avait cru capable de manquer à la foi que je lui avais jurée. Il s'aperçut qu'il m'avait blessé. « Souvenez-vous, dit-il, que j'avais eu le malheur ce jour-là de vous offenser et que Madame Pratolung a eu l'audace de me dire à ce sujet qu'il aurait été bien plus heureux pour vous d'épouser mon frère au lieu de moi. Voilà ses paroles exactes. » On m'aurait dit que c'était moi qui avais prononcé ces paroles, que je ne l'eusse pas plus cru que de Madame Pratolung. « Êtes-vous bien sûr qu'elle vous ait tenu un propos si cruel ?» lui dis-je. Oscar, au lieu de me répondre, tira de son portefeuille, après l'avoir cherché un instant, un morceau de papier tout froissé qu'il me mit sous les yeux pour me le faire lire. « Reconnaissez-vous mon écriture ?»«
Oui. »
J'avais vu un nombre suffisant de ces lettres depuis que j'avais recouvré la vue pour être sûr que je ne me trompais pas. « Alors, me répondit-il, lisez et jugez vous-même. »